Bonjour, bien-aimés. C'est une belle soirée aujourd'hui. Vous avez très aimé la musique, n'est-ce pas? Merci beaucoup. On dirait que nous sommes en train d'aller dans un monde très spécial. Aujourd'hui, nous allons voir dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, à partir du verset 16. À partir du verset 16. Actes 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Et se mit à nous suivre, Paul et nous, elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leurs gains, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant « Ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs. » qui annonce des coutumes qui nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs et ont fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sept aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Nous allons lire jusqu'ici. Il y a beaucoup de gens qui semblent Dieu aussi très simple. Mais lorsque nous lisons la Bible, la Bible est faite sous forme d'histoire. Mais dans la Bible, nous pouvons découvrir le cœur de Dieu. Je suis un spécialiste à propos de l'éducation de la mentalité. Et il y a une ville qui s'appelle Pradikas en Russie. Et c'était la ville qui fabriquait beaucoup de vodka. Et en Russie, c'est un pays très où il y a le froid. Et le vodka a été créé à travers ce pays dans tout le monde. Et il y avait beaucoup de vodka qu'ils créaient. Mais en partageant ces voitures, ce qui a été un problème, et lorsque les voitures de Bod ont été exportées partout dans le monde, il y avait beaucoup de gens qui avaient perdu le travail. Nous pouvons voir beaucoup de jeunes qui prenaient de la drogue et qui étaient en train de mourir. IYF est en train de fonder les jeunes et de leur prêcher l'évangile. Donc beaucoup de drogués ont été libérés de la drogue et ils sont en train de mener une nouvelle vie. Et une fois j'étais allée dans cette ville, Pratkas, vous savez ce que signifie Pradikaskas? Paradis veut dire le fait de conquérir, et Kraskas, ça veut dire en Russie. Ça veut dire que on a gagné une montagne. Et en Russie, Pradibostok, cela veut dire que nous avons pris l'Orient. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent la rémission de leurs péchés à travers notre Église. Et dans la drogue, il y a une chose qui s'appelle trois lignes. Et cela veut dire dans la drogue, c'est une chose de 99%. Et cela veut dire qu'il n'y avait pas autre chose qui a été achetée et c'était complètement de 99%. Et lorsque les gens font sortir de coca, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'utiliser des matériaux scientifiques. Mais les coca ne sont pas n'étaient pas aussi simples. Donc de 99%, ils rentrent facilement dans le cœur, dans le corps. Avec Sri Lanka cocaine, si on prend de la drogue, l'intoxication de la drogue devient de plus en plus moins. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver cette drogue de trois lignes. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de prendre la drogue. Et lorsque cette drogue entre dans le corps, il y a beaucoup de moments où cette drogue est dans le corps. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui sont intoxiqués par la drogue. Et si nous regardons attentivement la peau de ceux qui sont drogués, ils sont à peu près, la peau est de couleur un peu verte. Et après, nous pouvons voir qu'ils meurent après la drogue. Et à Vladikavkaz, il y avait beaucoup de drogués qui étaient morts. Et j'ai écouté beaucoup de chants comme mes frères et sœurs qui étaient morts à cause de la drogue. Lorsque j'étais allée à Vladikavkaz, il y avait un habitant de cette ville qui m'avait invité pour prendre le dîner. Et je n'étais pas le seul à aller, mais j'étais allé avec nos pasteurs qui étaient au nombre de 40. Et sur une place assez large, il nous avait invités et il nous avait dit: Pasteur, je te remercie parce que tu as créé le centre d'AYF à Vladikavkaz. Et à Vladikavkaz, au centre d'AYF et de l'église Mission de la Bonne Nouvelle, nous pouvons voir beaucoup de jeunes changer à cause de l'évangile. Et nous sommes très reconnaissants de vous, c'est pour cela que nous avons invité pour le dîner, pour ce déjeuner. Et il nous avait présenté ce repas, que c'était un repas traditionnel de leur ville. Et il nous avait présenté que aujourd'hui, cette journée, que je suis devenu le roi. Le roi pour être servi. Et il nous avait donné de la nourriture comme s'ils étaient des serviteurs. Et je ne savais pas s'il me demandait ces nourritures pour laver ma main ou de manger. Et après, quand j'avais essuyé ma main avec de l'eau, j'avais nettoyé ma main. Et la nourriture traditionnelle de la Russie est aussi très compliquée. Et c'était un déjeuner où je ne pouvais jamais oublier. Dieu, il change le cœur de l'homme. Il change le cœur de l'homme comme s'il cultive la terre. Moi, je viens de Gyeongbuk, en Corée, qui est ma ville natale. Et dans la ville, il y a une terre de Naptong qui est une terre la plus bonne. Et il y avait le président Kratz qui avait cultivé le champ d'haricots. Mais pour le champ de Naptong, ce champ était plus meilleur. Et aussi, je peux discerner le champ qui est bon et le champ qui n'est pas bon. Lorsque mon père, il avait acheté ce terrain, dans ce terrain, il avait planté beaucoup de choses à part les haricots. Lorsque nous étions petits, il n'y avait pas assez de nourriture à manger. Mais notre père, à cause de nous, il avait planté les haricots. Donc, dans notre maison, jamais les haricots ne manquaient. Parce que j'avais mangé trop d'haricots. D'arachides. Et nous, dans notre champ, nous aimons franchement de l'arachide. Ou soit nous pouvons cuire les arachides. Et je remarque que les arachides sont très bonnes pour notre vie. Et notre père, il avait planté sur le terrain qu'il avait acheté les arachides. En ce moment, on n'avait pas beaucoup de nourriture à manger et on était pauvres. Mais notre père, pour nous les enfants, il avait planté les arachides. Dans la Bible, il est dit que Dieu, il est le cultiveur, le cultivateur. En effet, Dieu, il est mon cultivateur, de même que mon père, il est mon cultivateur. Et moi, je suis le fils du cultivateur. Lorsque nous cultivons la terre, nous plantons une germe. Auparavant, si nous regardons comment cette graine pousse pour devenir une plante, c'était très étonnant. Et mon père, il était une personne qui cultivait très bien. Dieu, il ne fait pas seulement pousser les germes, mais il est celui qui plante le cœur de Dieu dans notre cœur. Si nous venons en Allemagne, les voitures en Allemagne sont les plus populaires. Nous aussi, dans notre église, avec la marque de Benz, avec la glisse, nous sommes en train de bien l'utiliser. Lorsque l'homme fabrique de la voiture, l'homme n'a pas créé, fabriqué pour la voiture, la manière de réfléchir ou de donner son propre opinion. Si la voiture avait la capacité de réfléchir et de donner son propre opinion, si celui qui conduit, il dit, « Ah, voiture, moi, mon ami, il est à Guangzhou et il est sur une grande situation, alors il faut que tu ailles très rapidement. » Si vous parlez ainsi à la voiture qui a la capacité de réfléchir, vous allez dire, « Ah, cette personne n'est pas le monsieur Kim, vous le connaissez ?»« Oui, je le connais. » »« Oui, auparavant, je l'avais pris dans la voiture. » Non, mais lui, il est une personne très méchante. Il avait renversé beaucoup de gens à cause de ça, à cause de cette pensée. Non, je ne veux pas aller auprès de lui. Si la voiture avait cette capacité de réfléchir en lui, alors l'homme aurait beaucoup de problèmes pour acheter les voitures. Mais de nos jours, dans la voiture, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de techniques dans la voiture. Un jour, j'avais conduit la voiture sur l'autoroute et je pouvais sentir que la voiture était très fatiguée. Et en conduisant la voiture sur le moniteur de la voiture, que je veux un café.
Donc la voiture d'aujourd'hui, ils font l'autodiagnostic et puis il y a, en bas, on peut avoir des messages comme si en disant que ah, je pense que vous êtes très fatigué, il faut que vous preniez de repos. Donc la voiture est allemande. Donc moi, je ressens rien, mais comme la voiture a été fatiguée, donc elle a ressenti que j'étais fatiguée moi aussi, donc elle faisait autodiagnostic. Tout comme Dieu a donné la fonction de sentir aux hommes. Donc, je pense que si on avait donné cette fonction aux voitures, donc il devait y avoir beaucoup de problèmes. Ah non, moi aujourd'hui je suis fâchée. Pourquoi? Parce que je me suis battue contre la voiture aujourd'hui. Parce que la voiture ne voulait pas bouger. La voiture disait qu'elle avait sommeil, donc elle devait se reposer, alors que moi j'étais très occupée. Je pense qu'il n'y a pas une telle voiture en Allemagne, n'est-ce pas? Parce que si on avait donné une telle fonction aux voitures, alors il aurait été très difficile de conduire une voiture, n'est-ce pas? Alors on devrait demander, s'il te plaît, je vais te donner de très bons carburants. Alors il faut que tu me l'envoies bien jusqu'à la destination. Non, non, tu dis toujours ça alors que tu ne me donnes pas de bons carburants. Alors s'il te plaît, il faut que tu prennes beaucoup de temps avant de prendre le départ. Comme ça, on va aller doucement. Est-ce qu'une des choses ne sera pas produite? C'est pourquoi lorsque l'homme a créé la voiture, elle a plusieurs fonctions. Et la voiture que moi j'ai, elle a beaucoup de fonctions compliquées. Alors moi, je ne connais pas du tout toutes ces fonctions. Alors quand je conduis, je ne connaissais pas des fonctions que je devais utiliser. En conduisant, on m'appelle. Et je demande aux gens, je vois apparaître des écritures sur l'écran de la voiture, qu'est-ce que je dois faire? Et comme ça, on me dit, ah, il faut faire comme ça, et puis je peux suivre. Alors, ce qui est important, c'est que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme de manière commode, comme une voiture. Dieu n'a pas créé l'homme pour faire de ce qu'il veut. Pardon, Dieu ne nous a pas créé pour faire comme et tout ce que Dieu veut. Dieu a donné un cœur à l'homme. Ainsi, l'homme suit son cœur pour obéir à Dieu et pour rendre gloire à Dieu, pour remercier Dieu et nous unir dans notre cœur. Autrement dit, la voiture n'a pas la capacité de décider là où elle veut aller et là où elle ne veut pas aller, que ce soit le matin ou la nuit. Est-ce qu'en Allemagne, il neige beaucoup en hiver? Est-ce qu'il neige beaucoup comme en Corée? Alors, en Corée, quand il neige beaucoup en hiver, il est très dur de conduire la voiture. Et lorsque nous devons passer sur des routes qui sont congelées, alors givrées, ce sera très difficile de conduire. Alors si la voiture savait penser, alors elle aurait dit, mais patron, il faut qu'on se repose quelques jours et puis on va partir parce que la fois dernière, on a fait un accident parce que la route était toute givrée. Alors il faut que tu veilles aussi sur mon corps. J'aimerais bien te prendre sur moi. Mais toi, tu ne t'intéresses pas du tout, tu ne veilles pas du tout sur moi. Je suis une voiture, mais tu me rends fou. Si tu continues comme ça, je ne vais pas y aller. Fais comme tu veux, parce que moi, je ne vais pas partir. Donc, un tel problème pourrait être produit. Alors, lorsque l'homme a créé la voiture, on a fait de sorte que la voiture n'ait pas du tout sa propre pensée. Pour que la voiture puisse suivre le cœur de la personne qui conduit. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, s'il avait fait de telle sorte que nous n'ayons pas d'autres pensées comme la voiture fait, pour que nous puissions rendre la gloire à Dieu et que nous prions toujours à Dieu, il pouvait nous créer de telle manière. Mais Dieu aime l'homme et il veut que l'on soit près de lui. Mais il n'a pas forcé l'homme à obéir à Dieu, mais il a voulu qu'on ait vraiment on ait vraiment le cœur de s'obéir à Dieu. Et parmi tout ce qui est la chose la plus importante, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est différente de la parole de l'homme. Puisque on ment beaucoup, alors quand on vient devant une personne, on fait semblant d'aimer, beaucoup aimer la personne, tout le monde sait beaucoup mentir. Je pense que les Allemands ne savent pas mentir plus que les Coréens, parce que les Coréens savent vraiment bien mentir. Et moi aussi, je me fais avoir très souvent. Alors, lorsque tu as fait l'homme, il a fait de sorte que l'on puisse avoir le même cœur que Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Puisque Dieu n'a pas dit aucune chose qui ne vient pas de son cœur. Alors, lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons voir que le début, ça commence par une histoire. Mais lorsque nous continuons à lire la Bible, nous pouvons voir comment est formé le cœur de Dieu. Alors, lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons lire exactement le cœur de Dieu. Et un jour, lorsque nous avons le même cœur que Dieu, et finalement, le cœur de Dieu entre dans notre cœur. Il est dit, Dieu a autant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde et a envoyé son cher Fils unique. Qu'est-ce que cela veut dire que Dieu aime le monde? C'est qu'on parle du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu a aimé l'homme. Et il a dit que la lumière a plu Dieu, à Dieu. Alors, dans la Bible, lorsqu'on lit, on peut lire le contenu des histoires qui sont racontées. Mais dans une partie de la Bible, nous pouvons découvrir le cœur de Dieu. Mais qui que ce soit parmi vous, vous découvrez la Bible, le cœur de Dieu en lisant la Bible. Et lorsque vous acceptez ce cœur dans votre cœur, et nous pouvons avoir le même cœur que Dieu. Alors, à partir de ce moment, tout travail de Dieu se manifeste à travers nous. En lisant la Bible, je pouvais voir beaucoup de cœur de Dieu. Et lorsque j'ai accepté le cœur de Dieu dans mon cœur, et le cœur que Dieu que j'ai accepté était le cœur qui était en Dieu. Et c'est ce cœur qui nous a fait d'aimer Dieu. Et c'est ce cœur qui a travaillé en nous. C'est ce cœur qui a travaillé en Dieu pour envoyer Jésus. Et lorsque le cœur de Dieu nous est arrivé et que nous avons accepté cette parole, c'est que nous pouvions accepter la parole de Dieu telle qu'elle était. Et lorsque nous acceptons la parole de Dieu telle qu'elle est, vous pouvez avoir le même cœur que Dieu. Dans le cœur de l'homme, il y a sa propre couleur de goût, sa demande et ses pensées. Tout le monde qui sont ici, si vous qui êtes parmi vous, si vous acceptez la parole de Dieu dans votre cœur, alors la parole c'est la parole qui a été écrite lorsque Dieu nous a créés dans son amour. Et lorsque nous pouvons accepter le cœur de Dieu dans notre cœur, nous pouvons avoir le même cœur que Dieu. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Et nous pouvons voir que le même travail de Dieu se manifeste à travers nous. Et avec le même moyen, selon ce moyen, j'ai fait beaucoup d'expériences du travail de Dieu. Et un jour, j'étais à la maison et on m'a appelé. Et je vous avais parlé de plusieurs fois et c'était un appel qui venait de l'Afrique, de Libéria. Et c'était un pasteur, c'était le pasteur de Libéria qui m'avait appelé. Et il m'avait appelé en pleurant. Pasteur, nous avons eu un problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, Cheyohan, il est en train de mourir. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Johan, il dormait à l'église un jour. Et il faisait nuit. Et la nuit, en dormant, il a senti que quelqu'un avait pris une aiguille et avait percé, avait piqué son pied. Et il a dit, ah! Mais il n'a rien vu. Mais il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il avait encore sommeil, donc il dormait. Le lendemain, Cheyohan s'est levé et il a parlé à son ami. Hier nuit, je dormais et que j'ai senti l'aiguille dans mon pied. Et ils ont commencé à dire, est-ce que ce n'était pas les scorpions? Non, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on peut avoir un scorpion dans la chambre? Et ils ont passé du temps. Dans l'après-midi, il est sainement tombé. Et il avait de la boue dans la bouche et il avait perdu la conscience, donc on l'avait ramené à l'hôpital. Donc le docteur ne faisait rien que de regarder et on lui a demandé d'aider. Et le docteur a dit, il a été piqué par un scorpion. Et pourquoi est-ce que vous êtes venu maintenant? Et la plupart des gens qui viennent immédiatement à l'hôpital meurent. Et maintenant, il a le poison des scorpions dans tous ses organismes. Et il va mourir. Nous ne pouvons rien faire du tout. Alors, mais faites quelque chose pour lui. Non, nous ne pouvons rien faire parce que c'est comme une personne morte. Alors, ils sont allés dans un hôpital. Et ils ont expliqué la même chose. Et eux aussi, ils n'ont rien fait. Et le docteur était venu et il a donné des injections. Et 2 heures plus tard, il est mort. Et les docteurs, ils ont fait l'opération CPR pour le ramener. Donc, plusieurs docteurs, ils ont fait du CPR. Et 1 heure plus tard, le cœur commençait à battre. Mais le problème, c'était que et il perdait la tension du sang. Lorsque vous regardez dans les moniteurs, dans les hôpitaux, donc à chaque fois que le cœur bat, vous pouvez voir le pouls monter et descendre, mais à cause du poison, normalement, ça doit battre une fois très haut et puis descendre et battre très haut et descendre. Mais pour lui, c'était très bas. C'est-à-dire qu'il mourait. Il était mourant. Alors, le pasteur de Libéria m'avait appelé. il nous a appelé et il a dit, ah pasteur, Jung-won est en train de mourir. Et j'avais demandé au pasteur, est-ce que je pourrais parler avec Yuan? Et on dit qu'il est en train de mourir, mais j'ai quelque chose à lui dire. Yuan, c'est pasteur Park. Et j'ai parlé avec lui au téléphone. Yuan, est-ce que tu peux m'entendre?
Ah oui, pasteur.
Oui, tu es en Afrique actuellement et que tu as été piqué par un scorpion et tu es mourant. Les docteurs disent que tu vas mourir dans 2 heures. Mais cela, c'est la situation. Mais si tu as le cœur de Dieu, la force de Dieu viendra en toi. Si tu veux dominer sur le poison de l'escorpion, il faut que tu aies une force. Et ce matin, j'ai lu la Bible. C'était Ésaïe chapitre 40, verset 31. Et qu'est-ce qui est écrit? Ceux qui portent espoir en Dieu renouvellera ses forces. Yohan, écoute-moi bien. Dieu n'a jamais menti. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? C'est écrit que ceux qui portent espoir en Dieu, en l'éternel, renouvellent sa force. Alors, si maintenant, si tu regardes Dieu, si tu regardes Dieu et que tu attends Dieu, Dieu ne ment jamais. Il va te donner la nouvelle force. Et de cette manière, tu peux sans faute vaincre le poison de l'escorpion. Comme c'était un appel international, je ne peux pas parler longtemps. Et comme c'est aujourd'hui, nous utilisons KakaoTalk, c'est très facile de se communiquer. C'est une application comme WhatsApp. Et l'appel international est très cher dans ce pays. Et ce n'était pas moi qui avais appelé, mais c'est de l'Afrique qu'on m'avait appelé. J'avais parlé avec Choi Ouyohan pendant 15 minutes. Et je lui avais dit, toutes les paroles qui sont écrites dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu, il ne ment jamais. Et la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Yuan, il faut te confier en l'Éternel. Il faut que tu regardes l'Éternel. Il faut que tu portes espoir en Dieu. Et tu ne vas jamais te mentir. Alors même si tu es en train de mourir maintenant, Dieu te donnera la nouvelle force. Alors tu pourras vaincre le poison de l'escorpion. J'ai lu la Bible plusieurs fois, quelques dizaines de fois. Et la Bible m'a montré le chemin du cœur de Dieu. Quand je lis la Bible, je ne me sens pas en train de lire la Bible. Mais je me sens comme si je suis en train de lire le cœur de Dieu. Lorsque la parole de Dieu entre dans mon cœur, je pouvais sentir que c'est le cœur de Dieu qui est entré dans mon cœur. la chose véritable est que lorsque je suis mes propres pensées et que je suis le cœur de Dieu, ce sont deux choses complètement différentes. C'était la différence qui existe entre Dieu et moi. Alors si je garde mes pensées, je ne peux suivre que la chair, mes désirs et mes pensées. Mais ce qui est important est que, à part la pensée de Dieu, il y a aussi le mauvais esprit qui nous conduit. Il y a une sœur dans notre église. Et cette sœur a dit un jour, Pasteur, j'ai une amie. J'aimerais que vous la rencontriez. Et j'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Et nous sommes donné un rendez-vous. Le lendemain matin, une dame qui était âgée de 35 ans environ était venue me voir. C'est une dame qui avait étudié le design et elle habitait à Busan. Elle avait une petite boutique de prêt-à-porter des enfants pour faire le design. Et lorsqu'elle avait, elle commençait d'avoir 20 ans, elle avait fait le design des habits. Et les habits qu'elle avait, elle avait dessinés étaient très bien vendus. Et tellement que son chiffre d'affaires était nombreux, était grand, et produit dans une petite boutique. Et que c'était comme si tous les enfants de la ville de Busan avaient au moins un habit qu'elle avait créé. Alors qu'elle n'avait que 20 ans, 21 ans, tous les jours, elle gagnait quelques milliers de dollars. Elle gagnait beaucoup d'argent. Donc, gagner beaucoup de l'argent, ce n'était pas son problème. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ce serait bien d'avoir beaucoup d'argent. Mais il y a beaucoup de gens qui deviennent très malheureux à cause de leur argent. Parce qu'il y a un chemin que les gens qui ont beaucoup d'argent suivent. Je ne sais pas si c'est le cas aussi en Allemagne. Mais en Corée, quand on gagne beaucoup d'argent, les gens commencent à suivre le plaisir de la chair qu'ils n'avaient pas autrefois. Donc parmi les plaisirs de la chair, ce qu'on ne pouvait pas faire avant à cause du manque d'argent, on peut le faire quand on gagne beaucoup d'argent. Alors ils sont conduits dans les péchés qu'ils peuvent pratiquer quand ils ont beaucoup d'argent. Et comme cette dame, elle avait gagné vraiment beaucoup d'argent, comme elle gagnait de l'argent de jour en jour, elle a été beaucoup entraînée, emmenée vers le mauvais côté. Et jusqu'à présent, même si elle avait des désirs impurs, elle ne pouvait pas les suivre parce qu'elle n'avait pas de moyens. Mais elle commençait à suivre les plaisirs que des gens riches pratiquaient. Et elle avait essayé de se contrôler, mais elle ne pouvait pas y arriver. Parce qu'elle était profondément plongée dans le péché. Et il y avait un marabout qui faisait la fétiche pour elle. Et elle commençait à suivre la féticherie de cet homme. Et comme ses habits se vendaient vraiment bien, alors son grand frère avait abandonné son travail et il était venu l'aider. Et même sa mère était venue l'aider. Et elle avait un enfant. Elle a eu une fille. Et un jour, elle était allée dans la ville avec son enfant. Alors, un jour, qu'est-ce qu'elle a pensé? Elle a commencé à ne... Elle a soudainement détesté son mari, donc elle n'est pas rentrée chez elle. Elle avait un appartement, elle avait beaucoup d'argent. Donc elle a juste dit que ah, mon mari, il va vivre avec tout ce que j'ai laissé, donc moi, je ne vais pas rentrer chez moi. Je n'aime plus mon mari, donc je ne vais pas rentrer à la maison, je vais juste lui laisser tout ce que j'ai pour qu'il parte avec. Et elle a divorcé avec lui. Et elle élevait sa fille. Et un jour, ce voyant était venu vous la voir. Et le voyant disait que si tu restes tout près de ta fille, ce n'est pas bien. Alors qu'est-ce que tu devrais faire? Et c'est vraiment bien que tu restes de très loin de ta fille que possible. Mais alors que sa fille était vraiment belle et qu'elle lui plaisait beaucoup, mais en suivant la parole du voyant, elle est restée à Busan et elle a envoyé sa fille à Séoul. Donc sa fille lui manquait beaucoup, mais à cause du voyant, elle est résistée. Et un jour, le voyant était revenu la voir, et il disait, tu dois faire sortir ton frère et ta mère de ton entreprise, parce qu'ils ne vont pas faire du bien. Non, comment est-ce que je pourrais faire? Non, c'est pas possible. Et le voyant a dit, tu sais, comment est-ce que tu peux gagner beaucoup d'argent comme maintenant? Tu vas avoir des ennuis si tu énerves le Dieu. Alors, elle n'avait pas de choix. Elle a dit de sortir à son grand frère et à sa mère. Et elle a expliqué, frère, j'ai eu un grand problème. Tu dois partir, mais ne demande pas s'il te plaît pourquoi. Et le grand frère, il était très surpris. Donc, je travaille dans une très bonne entreprise, mais j'avais abandonné mon travail à cause de toi. Mais comment est-ce que tu peux me faire ça maintenant? Grand frère, je suis vraiment désolé. Mais je n'ai pas le choix non plus. Mais pourquoi est-ce que tu fais une telle décision? Oui, mais je ne peux pas te le dire. Grand frère, s'il te plaît, comprends-moi. Alors, elle est devenue ennemie de son grand frère et ils se sont beaucoup battus. Et elle a expliqué, elle a dit la même chose à sa mère. Et la mère a pensé que sa fille était devenue folle. Alors, elle n'avait que des ennemis. Et à partir de ce moment, son entreprise traversait des moments très difficiles. Les habits qu'elle avait dessinés se vendaient vraiment bien. Mais dans tous les magasins, dans toutes les boutiques, les habits ne se vendaient pas. Et avant, elle avait dépensé beaucoup de l'argent et commençait à avoir des problèmes. Elle avait vraiment de gros ennuis. Et avant, toute chose marchait très bien pour elle. Mais désormais, ce n'était pas qu'il y avait quelques problèmes dans l'entreprise, mais elle avait beaucoup de dettes qu'elle ne pouvait pas rendre. Et les échanges arrivaient, et elle ne pouvait même pas répondre au téléphone. Et un jour, elle ne pouvait pas dormir. C'était vers 2h du matin. Et quelqu'un appelait son nom. Et a appelé Juan. Et il ne savait pas en fait si elle entendait dans ses oreilles ou c'était dans son cœur. Tu es vraiment fatigué, n'est-ce pas? Je pense que tu es vraiment fatigué et en difficulté. J'aimerais t'aider. J'aimerais te donner la paix. Je te donnerai de repos. Et cette parole était vraiment douce pour elle. Et la parole et la voix disaient, ouvre les fenêtres. Elle s'est approchée de la fenêtre et l'a ouverte. Et toute la ville était endormie et ne voyait que la lumière. Prends une chaise et approche-toi, mais place-la à côté de la fenêtre. Et elle a fait. Elle monte sur la chaise et saute par-dessous. Alors qu'elle habitait un étage qui était très haut, et si elle tombait, elle allait mourir sur place. Et la voix continue à parler. Tout homme naît une fois et meurt une fois. C'est que les hommes vivent pour mourir. Si tu meurs, tout finit. Toutes les difficultés et de la souffrance seront terminées. Elle avait vraiment envie de mourir. Mais elle ne fait pas à cause de sa fille. Mais la voix avait senti cela. Et la voix disait, je sais que tu penses à ta fille. Mais ta mère, elle aime l'argent. Mais quand tu meurs, tu vas laisser beaucoup d'immeubles derrière toi. Alors ta mère, elle va prendre soin de ta fille avec tout ce que tu vas lui laisser. Et la dame, elle buvait de temps en temps. Et elle prenait aussi des produits pour stabiliser en fait son esprit. Elle était vraiment souffrante et elle voulait sauter. Et elle s'est rappelée soudainement qu'il y avait une amie qui était proche d'elle qui venait de mourir. De la nuit, elle s'était levée et elle était allée. Elle s'est suicidée dans la douche. Elle avait pris la corde de la douche et puis elle s'était pendue avec. Donc c'était une personne avec qui elle avait donné des rendez-vous, mais cette dame, elle était morte. Donc la dame qui était son amie. Ah, c'est comme ça que ma copine, elle était morte. Et encore tout récemment, il y avait une personne avec qui elle connaissait très bien, s'était suicidée. Et la dame, elle me disait, si j'avais bu ce jour-là, comme je ne pourrais pas bien juger, je serais mort. Et j'aurais décidé de mourir. Et de temps en temps, je prends des médicaments. Mais si je prends de l'alcool ou le caïman, alors je ne peux pas juger exactement et je perds la fonction de décider. Et j'aurais peut-être choisi de mourir. Et elle a eu peur. Alors, elle avait fermé la porte. Elle était assise sur la chaise. Vers 3 heures du matin, elle était vraiment souffrante. Ah, j'ai un problème. Alors elle est allée sur Internet. Elle a commencé à chercher les psychologistes. Et lorsqu'elle était sur Internet pour trouver un psychologue, et à 3 heures du matin, elle a reçu un coup de fil. Et lorsqu'elle a décroché, c'était une amie. Ah, qu'est-ce que tu fais jusqu'à présent? Tu dors pas? Je suis en train de chercher un psychologue sur Internet. Et la personne qui l'avait appelée a dit... En fait, la personne qui l'avait appelée était moi, j'étais de 2 ans. Donc, elle appelait grand-sœur. Et elle commence à dire, grand-sœur, en fait, il faut que je te dise quelque chose aujourd'hui. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi. Je voulais te le dire jusqu'à présent, mais je pouvais, ça, peut-être, ça peut ne pas te plaire, donc je ne le disais pas. Mais même si cela ne te plaît pas, aujourd'hui, je veux te le dire. D'accord, il n'y a pas de problème, dis-le-moi. Grande sœur, il faut que tu rencontres le pasteur de mon église. D'accord, je peux le rencontrer si tu veux. Qu'est-ce que je peux faire? Demain, tu vas prendre le TGV pour venir à Séoul. Je vais venir te chercher à la gare. Ce jour-là, il avait pris le TGV pour venir me rencontrer. Et elle m'a expliqué tout ce qui s'est passé. Et je lui ai dit, madame, croyez en Jésus-Christ. Et la dame, elle a ri. Ah, je vais croire en lui prochainement. Madame, vous allez avoir un grand problème. Elle était très surprise. Le mauvais esprit a fait un grand plan de vous tuer depuis très longtemps. Écoutez-moi attentivement. Vous êtes divorcé avec votre mari, n'est-ce pas? Et vous êtes éloigné de votre fille, n'est-ce pas? Et vous avez chassé votre grand frère et votre mère de l'entreprise, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi vous avez fait tout cela? C'est le mauvais esprit qui voulait vous envoyer en enfer pour ne pas que vous croyiez en Jésus-Christ. Il avait le plan de vous tuer. Si on vit avec le mari, il est difficile de se suicider. Et si on est avec sa fille, il est vraiment dur de mourir en laissant sa fille. Et si vous étiez avec votre mère et votre grand frère, vous n'aurez pas d'occasion de vous tuer. Alors, le mauvais esprit a fait un plan pour vous envoyer en enfer. Et il a tout fait pour que vous tombiez en enfer à cause de vos péchés sans rencontrer Jésus-Christ. Et comme c'est vers la fin, et donc il vous persuade de vous tuer. Ce n'est pas que ça s'est passé en une seule journée. Mais le mauvais esprit a fait le plan pour vous envoyer en enfer. Et il est en train de vous conduire pour que vous alliez en enfer. La dame, elle a dit. La voiture, elle était vraiment douce. Donc si j'avais bu ou si j'avais pris un neuroleptique, alors je m'aurais tué. Mais puisqu'il y a déjà deux personnes qui étaient proches d'elle, qui sont mortes il n'y a pas longtemps, mais comme vous avez dit, votre amie, elle est allée en enfer. Donc si vous ne croyez pas en Jésus maintenant, vous allez voir comment le mauvais esprit vous conduit en enfer. Ce jour, la dame, elle a cru en Jésus-Christ et elle a reçu Jésus dans son cœur. Et elle est repartie à Busan. Elle a pris le TGV pour aller à Busan. Et continue à méditer sur la parole qu'elle avait entendue. Et lorsqu'elle est arrivée à Busan, elle est allée chez elle. Lorsqu'elle est à la maison, il y avait un papier qu'elle avait acheté du voyant. Donc, elle avait acheté des talismans qui coûtaient 10 000 $ ou 5 000 $ par un. Donc, lorsqu'elle gardait le talisman sur elle, elle pensait que tous les malheurs allaient la quitter. Donc, il avait Jésus dans son cœur et il se sentait en paix. Et il avait tout donné à Jésus-Christ. Donc, Dès qu'elle est arrivée à Busan, elle a sorti tous les talismans qu'elle avait chez elle, qui étaient à peu près 50, et elle a tout brûlé. Et lorsqu'elle a brûlé les talismans, elle entendait autour d'elle des bruits qui faisaient... Elle a eu très peur. Et cette dame, elle est venue devant Dieu. Et elle a ramené sa fille. Et elle n'avait plus rien contre elle. Et elle se sentait vraiment contente. Et elle avait rappelé sa mère et son grand frère à travailler avec elle. Et actuellement, elle a déménagé à Séoul et vient dans notre église et on offre le culte ensemble. Et j'ai dit au jeune homme qui a été piqué par les scorpions, Dieu a mis son cœur dans la Bible. Si tu crois dans la parole de Dieu, alors la parole de Dieu va entrer dans ton cœur. Et c'est le cœur qui a permis à Dieu de faire des actions. Quand la parole de Dieu et le cœur de Dieu entrent dans ton cœur, c'est le cœur qui a fait comme tout comme tu as agi selon son cœur, c'est ce cœur qui te permettra de faire des actions. Même si tu n'essaies pas, tu vas avoir le même cœur que Dieu. Et lorsque tu auras exactement le même cœur que Dieu, vous allez former un seul cœur. Et avec ce cœur, la paix qui est dans le cœur de Dieu va entrer dans ton cœur. Et la sagesse de Dieu va entrer dans ton cœur. La force de Dieu va pénétrer dans ton cœur. La joie de Dieu va entrer dans ton cœur. Et tu ne seras plus même qu'avant. Et il y a une très grande force dans la parole. Et même si tu es mourant, cette force est largement capable de donner la nouvelle vie. Donc, j'avais fait un appel international avec l'étudiant Choi Yuan. Je lui ai demandé, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu peux croire ce que je suis en train de te dire? Est-ce que tu comprends vraiment ce que je te dis? Oui, pasteur. Oui, je comprends. Alors, il faut que tu te lèves tôt. Et l'étudiante Tsui avait écouté ce que je lui avais dit. Alors, à partir de ce moment, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Dans le cœur de Tsui Yuan, il a eu le cœur que « Ah, je vais vraiment mourir, je vais promptement mourir ». Mais lorsqu'on lui avait dit que lorsqu'on se confie en Dieu, on va avoir la nouvelle force, et il a dit qu'il s'est dit qu'il pouvait revivre. Alors la personne qui pense qu'il va mourir et qui pense à vivre donc, sont très différents. Lorsque je pense mourir, tout ce que je pense ne se dirige que vers le désespoir. Mais quand je pense à vivre, quoi que je pense, tout restera dans l'espoir. De l'étudiant qui était au Liberia, qui était à une distance de des milliers de kilomètres, qu'est-ce que je pourrais faire pour lui alors que j'étais en Corée? Est-ce que je pouvais lui préparer des médicaments? Ou est-ce que je pouvais lui présenter un bon médecin? Non, je ne pouvais rien faire du tout. Et comme je n'étais pas sœur, je pouvais donner l'espoir dans son cœur. Et s'il accepte ma parole, alors il peut avoir l'espoir dans son cœur. Ce que je ressens à chaque fois que je lis la Bible, c'est que je vois la vie de Jésus dans la Bible. À chaque fois que Jésus rencontre des personnes qui ont des problèmes ou qui ont des maladies, Jésus a donné l'espoir. Le malade depuis 38 ans était couché à la piscine de Bethesda. Lève-toi, prends ton lit et marche. Tu peux marcher. Lève-toi. Tu peux prendre ton lit et tu peux marcher. Le malade depuis 38 ans n'a jamais pensé à marcher. Combien de fois il aurait envie de marcher et se lever? Mais c'est tous ses jambes étaient tout maigres. C'était impossible de se relever. Mais lorsque la parole de Dieu est entrée dans son cœur, et quel cœur est-ce que ce malade depuis 38 ans a eu? C'est que, ah, je pourrais me lever. Je peux me lever et je pourrais marcher. Et il a eu ce cœur. C'est un cœur qu'il n'avait jamais eu auparavant. Ah oui, en suivant le cœur de Jésus, si je me lève et que je marche, je pourrais marcher. Je pourrais me lever. Et lorsqu'il imaginait ce moment, il était joyeux, il était content et il avait de l'espoir. Ah oui, je peux marcher, je pourrais marcher. Parce qu'il a dit que je pouvais faire. Je suis abandonné mes pensées. Je vais suivre la parole. Il n'y a que le désespoir dans mon cœur. Mais lui, il est en train de me donner l'espoir. Alors, je peux marcher. Oui, j'ai envie de marcher. Et quelque chose d'imaginable s'est passé. Ses jambes étaient tout maigres et ne pouvaient pas du tout bouger. Toutes ses jambes étaient tout maigres. Et c'était des jambes qui n'avaient pas du tout de la force. Et il savait que lorsque l'eau était agitée, il entrait et qu'il serait guéri, mais il n'avait pas la force d'aller jusqu'à la piscine. Mais à chaque fois qu'il entendait cela, si j'écoute la parole de Jésus, je peux marcher, je pourrais me lever. Oui, Jésus a dit, oui, je pourrais me lever. Et combien de fois il aurait envie de se lever? Alors il s'est courbé, il a appuyé sa main contre la terre et il pouvait commencer à se lever. Et il a commencé à tendre ses pieds et il pouvait tendre ses pieds pour se lever. Les pieds qui étaient tout maigres pouvaient avoir la force. Parce que la parole de Dieu est vivante et elle a la force et elle se mouvoit. Et qui que vous soyez, si la parole de Dieu entre dans votre cœur, alors ce n'est plus votre vie qui mène votre vie, mais c'est la vie de Dieu qui mène la vie. C'était très merveilleux. Et l'étudiant Choi-Yohan a pu croire à la parole. Dieu a dit dans la Bible que si je me confie à Dieu, si je le regarde, et que si je porte espoir en Jésus, en Dieu, il va me donner une nouvelle force. Alors je n'ai rien d'autre chose à faire que d'attendre Dieu. Parce qu'il va me donner la nouvelle force. Et je pourrais vaincre le poison des scorpions. Ah oui, je peux mourir. Donc, je pourrais me relever et je peux aller rencontrer mes parents aux États-Unis. Je vais vivre. Alors, le cœur de la personne mourante a changé. Il était couché. Il ne pensait qu'à Dieu. Ah, Dieu me redonnera la vie. Et quelques temps plus tard, il s'était endormi. Donc, il ronflait très fort. Et il faisait très nuit. Et il y avait une infirmière qui était de garde. Il faisait très nuit. Et de passage, elle a lu le moniteur de Cheyohan. Elle était très surprise. Docteur, docteur, il y a un miracle qui s'est produit. Venez ici, s'il vous plaît, regardez. La tension de ce patient devient normale. Non, c'était pas... Donc la tension de Cheyuan ne faisait que baisser, mais ça commençait à se rétablir. Deux heures étaient largement passées, mais il n'était pas encore mort. Le lendemain matin, Cheyuan s'était levé. Ah oui, j'ai très bien dormi. Tu te sens, ça va? Oui, je vais bien. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé hier? Tu as chié et puis tu as pissé sur le lit dont je t'ai lavé. Ah bon? Mais tout son pied était fourré à cause du poison de l'escorpion. Et le docteur, il voulait opérer. Mais il ne pouvait pas faire l'anesthésie. Parce qu'il a été piqué par l'escorpion, alors son cœur n'était pas en bon état. Et le docteur a dit, on doit faire une opération, mais on ne peut pas faire l'anesthésie. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ils ont réfléchi. Dieu qui m'a sauvé de la mort, il va m'aider cette fois-ci également. Oui, on va faire. Vous n'allez pas faire l'anesthésie, vous allez faire opération. Et on a fait opération. La souffrance était si grande qu'il ne pouvait pas supporter. Et tous ses pieds étaient redevenus normaux. Il était venu me rencontrer et je lui ai dit, « Cheyuan, à chaque fois que je te vois, je ne peux pas oublier Dieu parce que la parole de Dieu est vivante. » Dieu, il a donné à l'homme un cœur de penser librement. Le cœur de l'homme se mouvoit selon son cœur. Mais celui qui connaît l'amour de Dieu met le cœur de Dieu dans son cœur. La parole de Dieu, la Bible, c'est la parole de Dieu. Si tu gardes le cœur de Dieu, la parole de Dieu travaillera en toi tout comme il a travaillé en Dieu. Tu deviens l'homme de Dieu. Et il s'est marié en 2013. Cheyuan est actuellement et il travaille en IYGIF à LA. À Los Angeles, et il est actuellement père de deux enfants. Il n'est pas mort. Dieu est en nous. Même si nous avons une forme extérieure qui est nous-mêmes, mais Dieu vit en nous. L'apôtre Paul a été enfermé dans la prison de Philippe. Il a rencontré beaucoup de difficultés. Il était très souffrant et il se sentait, il avait beaucoup de la douleur. Mais la nuit profonde dans la prison, je ne sais pas s'il était évanoui et s'est réveillé dans la nuit profonde. Et Paul a pensé à tout ce qui s'est passé. Parce qu'il avait guéri une femme diabolique, alors il a été frappé. Et il avait envie de blâmer Dieu. Mais je crois en toi, mais pourquoi est-ce que tu me fais connaître une telle chose? Qu'est-ce que j'ai fait du mal? Et lorsqu'on m'a frappé, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas protégé, oh Dieu? Et je suis en prison maintenant. Paul pouvait se plaindre, mais il avait la foi en Dieu. Dieu sait de ma situation. Dieu n'a jamais terminé une chose par le malheur. Il avait toujours transformé le malheur dans la bénédiction. Et il a pensé à Dieu. Alors dans la nuit profonde, le cœur de Dieu louait Dieu et a rencontré Dieu. Toute la situation était désespérante. Il était en prison et il ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer et il ne savait pas si on allait le fouetter encore de plus. Donc toute la situation était dans le désespoir. Mais il avait fermé les yeux qui étaient ouverts vers la situation et il a ouvert l'autre yeux, les autres yeux qui étaient dirigés vers Dieu. Alors les yeux qui voyaient la situation étaient différents. Paul était surpris. Ah oui, je suis en prison. Même si j'ai été fouetté. Mais Dieu, tu vois toutes choses, n'est-ce pas? Tu es mon Dieu, n'est-ce pas? Tu es mon Dieu. Tu es en train de voir que je suis en prison et j'étais fouetté et tu ne vas pas m'ignorer. Alors, le cœur de Paul, dans le cœur de Paul, il se disait, ah, Dieu travaillera. Ah, je suis très reconnaissant. Alors, dans le cœur de Paul était entré le cœur de Dieu. Il louait Dieu. Il a prié Dieu. Et tous les prisonniers l'avaient entendu. Et les prisonniers ont dit, ah, vous me faites pitié. Vous semblez être très, très intelligent et vous êtes devenu fou parce qu'on vous a fouetté. Ils ont été vraiment bien fouettés et ils sont contents, donc je pense qu'ils sont fous. Ils ont été frappés, mais comment est-ce qu'il peut chanter parce qu'il est joyeux? Mais dans le cœur de Paul, il avait le même cœur que Dieu. À partir de ce moment, Dieu commençait à travailler. Il y avait le tremblement de terre, dont tous les hommes, ils tremblaient ensemble. Et toutes les portes étaient ouvertes. Et tous les seaux étaient refaits. Et les geôliers étaient en train de dormir. Lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont vu que toutes les portes des prisons étaient ouvertes. Ah, oh mon Dieu, c'est impossible. Comment est-ce que les portes devaient s'ouvrir? Alors tous les prisonniers, ils auront fui. Ah si, ils ont tous fui, alors moi si je suis mort, c'est mieux de me suicider. Et il avait pris son épée pour se tuer. Mais pour la crier, non, attends! Et le geôlier a vu. Donc c'était la voix qui venait de la prison, de la cellule toute noire. Il a dit, ah non, nous sommes tous là, il ne faut pas te tuer. Et quand il est entré, il a vu que tout le monde était là. Et le geôlier voulait passer du temps avec Paul. Comment pouvons-nous avoir la vie éternelle? Il faut croire en Jésus. Et souvent, je suis trompée par mes pensées. En lisant la Bible, la parole de Dieu entre dans mon cœur. Lorsque la parole de Dieu entre dans mon cœur, j'ai le même cœur que Dieu. « C'est à partir de ce moment que Dieu vit dans mon cœur et il travaille. Pendant les 55 dernières années, tu as fait beaucoup de grands travaux en moi. En lisant la Bible, j'ai découvert le cœur de Dieu dans la Bible. Et j'ai accepté le cœur de Dieu dans mon cœur. Et à chaque moment, Dieu travaillait miraculeusement dans ma vie. La plupart de vous semblent vivre selon vos pensées. Mais l'esprit de l'ennemi de Dieu a beaucoup travaillé pour que nous éloignions de Dieu. Mais si parmi vous ce soir, qui lisent la Bible et qui écoutent la parole et qui croient la parole de Dieu dans son cœur, votre cœur s'unifie au cœur de Dieu. Et quoi que vous rencontriez, quel que soit le problème qui vient à votre rencontre, Dieu commence à vivre dans votre cœur et travailler. Et pendant les 50 dernières années, je pouvais vivre pleinement le travail de Dieu. Lorsque tu as créé l'homme, il ne nous a pas créé de sorte que nous n'ayons pas de nos pensées pour que nous acceptions seulement les pensées de Dieu. Dieu nous a beaucoup aimés. Il voulait que l'homme connaisse Dieu de lui-même et il voulait que l'homme ait le même cœur que Dieu et accepter le cœur de Dieu pour que nous formions un seul cœur. Lorsque deux ordinateurs sont compatibles, alors on peut s'échanger d'informations. Tout comme cela, vous pouvez recevoir la paix de Dieu dans votre cœur. L'amour de Dieu entre dans votre cœur. La sainteté de Dieu entre dans votre cœur. La justice de Dieu entre dans votre cœur. Et c'est comme si les deux cœurs sont connectés. Et lorsque les deux cœurs sont connectés, vous devenez comme Dieu. Votre cœur devient comme celui de Dieu. Vous avez la même vie que Dieu. Et toute la force de Dieu vient dans votre vie. Et vous recevez la grâce de Dieu. Pendant les 50 dernières années, je pouvais voir que Dieu travaillait en moi. Dieu m'a fait évangéliser. Il m'a fait prêcher la parole. Que vous tous abandonnez vos voix pour accepter la parole de Dieu, pour que Dieu puisse travailler dans votre cœur. Alors votre vie est bénie, bénie et sainte et juste. Nous allons prier. Dieu notre Père, je te remercie. Nous étions des personnes qui ne pouvaient que mourir. Mais tu nous as sauvés parce que tu nous as tant aimés. Je te remercie parce que tu nous as accordé la miséricorde. Que tu nous bénisses. Et que la bénédiction et la gloire soient abondées sur nous. Je te remercie. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.